Palestine ici, Palestine là-bas. Ce soir, au micro de Radio Calade.
Palestine ici, Palestine là-bas. Ce soir, au micro de Radio Calade, Mabrouk Lazreg, Comité Caladois Action Solidarité.
La Bernard Livernay, des missions civiles, campagne civile internationale pour la protection du peuple palestinien. On va démarrer peut-être cette émission de la nouvelle année avec un bilan. De ce qui s'est passé, des événements qui sont cruciaux ou importants qui se sont passés en 2018. Et on va commencer, puisqu'on en a déjà pas mal parlé, mais je pense que ça serait bien qu'on fasse un peu un bilan sur l'année 2018 qui a vu apparaître la marche.
Alors, la marche, comme la tu marche, dis, la marche du retour.
Du retour.
Qui a été initiée par la société civile palestinienne, en particulier dans la bande de Gaza. Cette marche s'inscrivait dans le cadre d'une commémoration du 30 mars 1976, où il avait été assassiné plusieurs Palestiniens. Et depuis ce jour-là, depuis 1976, on commémore tous les ans la date du 30 mars. Sauf qu'à cette date du 30 mars, il avait été inscrit une initiative, la marche du retour. La marche du retour avait pour objectif de dire, voilà, dans la bande de Gaza, aujourd'hui la bande de Gaza subit un blocus et il appartient aux Palestiniens de revenir sur leur terre natale, entre autres la Cisjordanie et le reste de la Palestine. Cette initiative s'inscrit carrément et constamment dans le cadre du droit international puisque c'est la résolution 194. Donc dans le cadre de cette marche, c'était de dire, ben voilà, nous on va faire cette marche pacifique, non violente, et pour arriver jusqu'à la zone tampon, qui sépare aujourd'hui la bande de Gaza du reste de ce qu'on appelle aujourd'hui, ou de ce qui est Israël aujourd'hui. Et puis il va s'en suivre des massacres. Et cette initiative n'a pas été brisée, malgré les assassinats, malgré les blessures, malgré les Palestiniens et les Palestiniennes qui sont aujourd'hui amputés, puisque tous les vendredis, cette marche a lieu dans la bande de Gaza.
Voilà, dans la partie nord de la bande de Gaza.
Voilà, du côté de Rafah, je crois. Voilà. Non, pas Rafah, puisque c'est la frontière avec l'Égypte, mais plutôt en haut du côté de Khan Younes.
Voilà. Et donc, ces marches pacifiques, ont voulu surtout marquer que la motivation, la mobilisation des Palestiniens de Gaza qui vivent dans des conditions très très difficiles est toujours présente. Il y avait des revendications aussi puisque ils revendiquaient aussi pour ce qui était des détenus des détenus, alors la rétention administrative, on en parlera peut-être après, et puis aussi, bien sûr, le retour. Il y avait des incontournables et des sujets pour lesquels on remet toujours sur la table ce sujet qui est l'accessibilité au retour des réfugiés, qui semblait un peu oublié depuis quelques années, mais qui existe toujours dans l'esprit des Palestiniens.
Alors, puisque l'initiative a lieu dans la bande de Gaza. Il faut savoir que dans la bande de Gaza, c'est où réside le plus grand nombre de réfugiés palestiniens. Ils sont plus de la moitié des réfugiés. À savoir que le nombre de réfugiés palestiniens aujourd'hui s'estime entre 5 voire 6 millions de Palestiniens. Et le plus grand nombre est dans la bande de Gaza. Mais pour faire un bilan de ce qui a été commis par l'armée israélienne, et là c'est le rapport de l'ONG israélienne B'Tselem, qui dit et qui stipule dans un rapport que les forces de sécurité israéliennes ont tué, en 2018, 290 Palestiniens, dont 55 mineurs en 2018. Parmi les victimes, 254 ont été tués dans la bande de Gaza, 34 en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, et 2 en Israël. Et la plupart ont été victimes d'une politique insouciante d'ouverture de feu. Donc comme on l'avait dit dans cette émission à plusieurs reprises, c'est que les soldats israéliens avaient pour objectif de tirer, de viser, de tirer, de tuer.
Et beaucoup d'estropiés.
Et puis ensuite, comme tu dis, puisqu'il y avait aussi cette volonté d'amputer les, à travers un matériel, comme on l'a pu le constater, et comme l'ont dénoncé certaines ONG, avec un matériel très sophistiqué, puisque une fois que la balle avait atteint le membre, cette balle déchiquetait le membre, mais d'une façon... Ce qui a donné le nombre de blessés et le nombre, comme tu dis, d'estropiés puis d'amputés.
Voilà, donc la seule alternative, c'était l'amputation. Quoi. Mm-hmm. Voilà. D'accord.
Passons au deuxième point, oui. Qui est ce qu'on a eu cette année, c'était qu'il y avait les 70 ans. Alors, d'un côté, c'était 70 ans de la création de l'État d'Israël. Et de l'autre côté, c'était les 70 ans de la... commémoration de la Nakba. La Nakba, quand on traduit en français, c'est la catastrophe. C'est un terme qui est spécifique aux Palestiniens qui commémorent cet événement, puisque ce jour-là ou cette année-là a été expulsé plus de 800 000 Palestiniens. Alors, aussi bien ça, c'est des faits qui sont avérés, mais en même temps, c'est aussi des historiens israéliens, comme à l'instar de Ilan Pappé, qui le disent. Et dans leurs travaux, justement, qui stipulent ce nettoyage ethnique qu'il y a eu cette année. Et depuis 70 ans, où il a été expulsé de nombreux Palestiniens, dont 800 000, les Palestiniens commémorent cet événement. Donc cette année, c'était aussi les 2018, c'était aussi la commémoration des 70 ans de la catastrophe.
Ouais, et chacun, de son côté, a essayé de marquer... à la fois son territoire, son influence, notamment avec la saison France-Palestine, France-Israël, je vais y arriver, France-Israël. Hein. Et puis l'année de la Palestine, de l'autre côté, pour faire le pendant de cette démarche.
Oui, puisque dans le partenariat qu'il y a eu entre la France et Israël, chose que la France a l'habitude de célébrer avec d'autres pays, mais cette année, elle voulait donner un caractère fort, justement, pour célébrer les 70 ans d'Israël, en faisant un partenariat et puis en promouvant la culture israélienne. Donc, ils ont fait ce qu'ils appellent la saison France-Israël, sauf qu'au bout du compte, et résultat des courses, ça a été un véritable fiasco, puisque tous les événements où on n'ont pas été à la hauteur, où on capotait. Et de l'autre côté, on avait justement les membres de la société civile, des ONG, des associations, qui ont justement mis en valeur ce qu'on appelle l'année de la Palestine, à travers des événements style conférences, projections, concerts. Et ça a été une réussite du côté de la solidarité avec la Palestine.
Est-ce que l'on peut dire que les actions de BDS, par exemple, et notamment auprès des artistes ou des événementiels, est-ce qu'on peut dire que ça a eu un impact sur peut-être sur la moins forte influence de du marquage de cette saison France-Israël?
Moi je ferai le lien entre cet événement et puis en même temps la position, puisque je pense qu'ils n'ont pas été insensibles à ce qui leur a été montré. Et puis que quand on voit la chanteuse, par exemple, vedette Lana Del Rey, qui est devenue l'une des 19 artistes à se retirer du festival Météor d'Israël, alors que des milliers de fans et de militants du monde entier l'aient exhorté à respecter l'appel au boycott des Palestiniens. Donc, je fais le lien entre cette position de cette artiste et de cette chanteuse, et en même temps de l'événement, justement, pour commémorer et pour célébrer l'année de la Palestine. Donc, pour moi, il y a...
Oui, je pense que ça relève bien de BDS, quand même.
Ouais, ouais. Ah oui, oui. BDS n'est pas étranger à tout ça. Et le fait de valoriser la culture palestinienne, c'est quelque chose de porteur et de très fort.
Tout à fait. Je voulais, moi, juste parce que, bon, on est dans cette année, on fait le bilan un peu de cette année, on a beaucoup parlé des rétentions administratives du côté israélien. Moi, je voulais parler d'une députée israélienne, palestinienne, Khalida Jarrat,
Ouais, qui est membre du Front populaire pour la libération de la Palestine.
Voilà, qui a été emprisonné il y a quelques mois, qui a demandé, elle a fait, donc au mois de novembre, elle a fait pour la troisième fois une demande de libération qui n'a pas été acceptée. Mais d'autre part, elle ne sait pas pourquoi elle a été arrêtée. C'est-à-dire que c'est une rétention administrative, on la met en prison et on... Donc une députée, une élue quand même, hein, c'est pas rien. Une élue qui est en prison sans savoir pourquoi, enfin sans qu'on ait donné de motif, de raison à son emprisonnement. C'est un exemple, on n'avait pas parlé jusqu'à maintenant, il me semble pas, mais c'est un exemple parmi beaucoup d'autres.
Parce que le nombre de personnes qui sont incarcérées de la même façon, ils sont nombreux. Et à juste titre, cette Palestinienne qui est justement une députée, puis qui est aujourd'hui dans le cadre d'une détention administrative injuste.
Voilà. Et donc ce nouvel apport de détention administrative expirera le 28 février 2019 et il devrait être confirmé par un juge militaire. Ça veut dire que c'est pas encore gagné, quoi.
C'est pas encore gagné, voilà.
C'est possible.
Mais pour revenir à l'année de cette année 2018 où on célébrait les 70 ans, d'un côté la création de l'État d'Israël et la commémoration des 70 ans de la Nakba. Il y a aussi un événement qui a été provocateur et qui a été justement, en plus des marches du retour où on a vu de nombreux morts tous les vendredis avec blessés à l'appui, il y a eu ce transfert de la position américaine, le transfert de son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Et comment dirais-je, ce transfert, il n'a pas eu lieu à une date... quelconque, cette date, elle a été bien pensée, comme tu dis, bien réfléchie, puisqu'elle a eu lieu le 14 mai. Et le 14 mai, pour les Palestiniens, ça veut dire quelque chose qui est essentiel, puisque le 14 mai 48, c'est là où a lieu le jour de la catastrophe. De ce qu'on avait dit sous peu, là, ce qu'on avait dit, c'était que le 14 mai 48, c'était le jour où les Palestiniens se sont fait expulsé et le jour où l'exode a commencé pour tout ce peuple.
Voilà. C'est un marqueur important. Hein, je veux dire, c'est
un marqueur important, une provocation.
Une provocation.
Et puis en même temps, un soutien inconditionnel à l'État hébreu de la part des États-Unis.
Tout à fait. Et on peut dire que, en fait, il y a des. Rien ne se fait maintenant sans les États-Unis. Hein. Et on s'est aperçu il y a quelques semaines que le président du Brésil applaudissait des deux mains et pensait même déplacer son ambassade aussi, je crois, à Jérusalem.
Alors,
Bolsonaro.
Bolsonaro, à un moment, il avait fait cette déclaration, mais il a vite été rattrapé par ses conseillers en lui disant que ce genre d'initiative ou d'aventure risquerait de lui coûter cher. Il a fait marche arrière parce que des pays solidaires avec la Palestine, en commençant par les pays arabes, pouvaient lui coûter justement des sacrés coûts économiques. Donc il a fait marche arrière, mais il revient encore à la charge, puisqu'il s'inscrit un peu dans la politique de son acolyte politique Donald Trump, puisque eux deux sont issus de la droite, voire l'extrême droite. Donc qui fait que aujourd'hui, on a ce genre de farfelu politique qui, aujourd'hui, continue à alimenter la zizanie dans la région et en dénigrant le peuple palestinien.
En tout cas, il l'a pensé, il l'a dit. Oui. C'est déjà un fait important, hein, même s'il le dans, même si ça n'a pas lieu dans les prochaines semaines, les prochains mois. Je ne suis pas sûr qu'il oublie cette pensée, voilà.
Il y avait aussi les financements, puisque pareil, pour parler de l'américaine, en voulant punir le peuple palestinien, il a décidé justement, Trump a décidé de supprimer l'aide qu'apportent les États-Unis tous les ans à l'agence de l'ONU qu'on appelle UNRWA, qui est un montant chaque année de 200 à 250 millions de dollars. Sauf que cette année, 2018, a été l'année où les subventions ont été arrêtées, quoi, d'une façon définitive. Et aujourd'hui, c'est vraiment c'est un coup porté au peuple palestinien. Mais du coup, l'Europe continue à financer, mais on n'est pas dans le même montant, puisque l'Europe, c'est, j'ai cru comprendre, les informations que j'ai, c'est à hauteur de 150 millions.
À peu près, oui. Ouais. Donc il faut savoir, oui.
Ouais. Alors, en plus de cette aide, l'Union européenne aussi apporte une aide financière à l'autorité palestinienne qui lui permet de payer ses fonctionnaires et de faire tourner un peu le... Mais ça reste aujourd'hui un manque à gagner et un coup porté justement au peuple palestinien. Voilà.
Donc en fait, Trump a divisé par deux hein, son apport. Hein, et l'UNRWA, hein, qui s'occupe, il chapeaute ça, hein, avait besoin de 398 millions, mettons 400 millions, on va dire 400 millions, à ce niveau-là, on peut faire des raccourcis, environ 400 millions, et il en manque encore 200 millions, quoi, au jour d'aujourd'hui, quoi. Donc, à quoi ça sert cette aide? Parce que je pense que c'est assez important que chacun
comprenne. L'aide, elle est destinée en premier lieu aux réfugiés, si j'ai bien compris. Et c'était dans le cadre justement de cette aide aux réfugiés qui étaient justement stationnés dans la bande de Gaza en attendant de revenir chez eux. Mais c'est une aide qui est justement à caractère humanitaire.
Tout à fait, oui. Mais qui permet aussi parfois de faire fonctionner les institutions.
Ouais, alors moi, ce que j'avais compris, c'est que cette aide qui est attribuée à l'UNRWA n'est pas de la même nature que l'aide qui est apportée à l'autorité palestinienne pour payer justement l'autorité palestinienne et ses fonctionnaires.
En tout cas, on peut voir quand même que les fonds alloués à la Palestine depuis 2016 ont régulièrement diminué.
Ça, on peut le dire.
Voilà. En gros, 250 millions de dollars. Quoi. Hein, bien. C'est pas la moitié, mais pas loin de la moitié de ce qu'ils avaient autrefois. Alors que, notamment Gaza, il y a de plus en plus de monde dans Gaza. C'est de plus en plus important.
Voilà. Population.
La population augmente
très concentrée dans un territoire très restreint. On voit vraiment les difficultés. Donc peut-être aussi revenir sur cette fameuse loi qui a officialisé ce qu'on appelle la loi d'État-nation. Qui a officialisé, mais d'une façon évidente. Ça, on le savait, puisque tous les ingrédients montraient que Israël était un État d'apartheid. Mais au mois de juillet, voire, je ne sais pas si c'est au mois d'août, mais je crois que c'est plutôt au mois de juillet, où le gouvernement et le parlement israélien ont officialisé ce qu'on appelle la loi État-nation, qui donne une primauté au caractère juif.
Voilà. Donc en fait, c'est, ils ont officialisé l'apartheid, quoi.
Voilà, c'est ça. Ça veut dire que pour aller simple et pour faire vite, celui qui n'est pas juif n'a pas les mêmes droits que celui qui est, quelle que soit la citoyenneté, puisque aujourd'hui on a des Palestiniens qui sont de citoyenneté israélienne, qui aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas juifs, n'ont pas les mêmes droits que les juifs israéliens.
Ouais. Alors,
ça, on voit déjà le caractère discriminant, mais qui est officialisé aujourd'hui d'une façon évidente.
Donc les Palestiniens d'Israël, on va dire, ils s'appellent comme ça.
Hein. Ouais, ouais.
Donc ils sont évincés du fonctionnement de la politique d'Israël.
Hein. Je pense simplement à
l'armée, par exemple.
Bah oui, déjà pas jugé de la même façon, parce qu'il y a les tribunaux civils et les tribunaux militaires. Mais il faut savoir que c'est 22% des citoyens d'Israël sont des Palestiniens. Donc ces 22% aujourd'hui, ils se trouvent exclus du statut de citoyen israélien. Donc parce que ils sont pas juifs. Et ça rappelle l'Afrique du Sud, puisqu'aujourd'hui ce qu'on dit, ce qui n'est pas juif n'est pas ce qui n'est pas juif n'a pas les mêmes droits que quelqu'un qui est autre que juif. Et ça rappelle l'apartheid, quand la personne n'était pas blanche et qui était d'une autre couleur.
Voilà. Donc, notamment les droits de circulation, les droits de vote.
Voilà. Ouais, mais ça, quand on dit aujourd'hui Ils ont officié l'apartheid, c'est à tous les niveaux. Comme tu dis, le droit de citoyenneté, le droit de vote, les tribunaux. Aujourd'hui, on voit carrément, quand on se promène en Cisjordanie, voire en Israël, on voit des routes séparées.
Les droits de circulation.
Les droits de circulation. Une route pour les Palestiniens et une route pour les Israéliens, avec ce fameux mur de la honte qui traverse toute la Cisjordanie, qui est de 700 à 800 kilomètres, où il y a une séparation entre les Juifs et les Palestiniens.
C'est-à-dire qu'il y a quand même deux types de Palestiniens, les Palestiniens d'Israël.
Ce qu'on appelle les Arabes de 48. Moi, je dirais trois, parce qu'il y a les... Comment on les catégorise ? Il y a les Palestiniens, les Arabes de 48, Palestiniens qui ont la citoyenneté israélienne, les Palestiniens de Cisjordanie, de la bande de Gaza et de Jérusalem-Est.
Voilà. Alors ça, on le savait un peu, parce qu'ils avaient déjà classé des zones, A, B, C. Il y avait des gestions du
fameux de l'accord d'Oslo, c'est ça ?
Les Palestiniens, oui, c'est ça. Ouais. Donc des gestions un peu différentes, à la fois Israël qui gérait son domaine à lui, et puis après des gestions communes, et puis des gestions uniquement autorité palestinienne, qui était vraiment la portion congrue.
Mais il y avait toujours le renforcement sécuritaire ou israélien, ou voire de l'autorité palestinienne qui était sous le regard israélien en permanence. Ouais.
En tout cas, les choses sont beaucoup plus claires maintenant, vu qu'avec cet État-nation... nouveau, on comprend mieux avec ce système-là que comment on comprend mieux pourquoi on appelle maintenant un État d'apartheid.
Un État d'apartheid. Ouais. Alors peut-être pour parce que aussi tout ça s'inscrit dans un cadre ou dans une configuration régionale, puisque aujourd'hui l'Arabie Saoudite, alors on le savait, ces liens avec Tel Aviv, cachés ou dissimulés, mais aujourd'hui il y a un rapprochement entre ces deux pays, justement pour avoir comme point commun et comme ennemi commun l'Iran. Donc aujourd'hui. Quelque chose qui, prochainement, pour moi, ça se verrait et serait évident de voir apparaître en plein jour un Netanyahou et puis un MBS, Mohamed Ben Salman. Et aujourd'hui, ce rapprochement relègue encore une fois la question de la Palestine, qui hier était une priorité. Aujourd'hui, elle est reléguée au deuxième, troisième, voire quatrième plan.
Bien sûr.
Justement, suite à ce rapprochement, et en plus de ça, la question du Yémen, où est embourbée l'Arabie Saoudite avec tous ses alliés, complique le soutien à la question palestinienne.
Tout à fait. Mais oui, ça obscurcit complètement le paysage palestinien. Déjà, c'était obscurci dans la mesure où l'autorité palestinienne n'était pas forte, n'était pas prédominante au niveau politique. Après, la force qu'a en ce moment Israël de se promouvoir partout, partout dans le monde. C'est pas simplement la saison France-Israël, mais un peu partout, elle marque des points.
Et tu as bien fait de le dire, puisqu'aujourd'hui, son rapprochement avec certains pays africains, où on l'a vu dernièrement avec le Mali, avec le Tchad, où Benjamin Netanyahou s'est rendu sur place, et on apprend que prochainement, il se rend aussi au Maroc. Donc tout ça s'inscrit dans une normalisation qui est chapeautée en même temps et parrainée par l'Arabie Saoudite, où on voit justement quelque chose qu'on ne voyait pas autrefois, puisque autrefois il y avait la question de la Palestine qui était au centre des discussions, qui freinait justement tout ça. Sauf qu'aujourd'hui tout ça est levé et les relations aujourd'hui se sont intensifiées et qui pour moi nuit à la question palestinienne.
Tout à fait, oui. C'est un peu comme pour ceux qui ont connu le panarabisme, qui est un peu dissous, là, pour le coup.
Bah, aujourd'hui, est-ce qu'il en existe? Les seuls pays aujourd'hui qui se comptent sur les doigts de la main, les seuls pays qui s'opposent à cette politique, à cette normalisation avec l'État hébreu, se comptent sur la main.
Bien sûr.
Je peux citer la Syrie, l'Algérie, et j'en passe, encore deux, trois, mais... Les principaux, ça reste ces deux pays, et voire d'autres, mais ils sont pas ce qu'ils étaient hier.
Oui, oui, ils n'ont pas la véhémence ou le. Ouais. Mais on l'a vu aussi avec la Turquie, quand c'était le bateau turc qui s'est fait raisonner au large de Gaza. Mmh. Hein, Erdogan, il les a foudroyés, et puis maintenant, les rapports se sont beaucoup améliorés.
Alors, beaucoup amélioré. Alors, ce qui apparaît quand on voit ces déclarations, on a l'impression que c'est un véritable adversaire. Sauf que quand on voit sur le plan économique, les relations continuent.
Bien sûr.
Ce que les gens aujourd'hui n'arrivent pas à comprendre, c'est ce paradoxe et cette incohérence entre des positions politiques d'un côté où on a l'impression de voir quelqu'un, un véritable adversaire, et puis de l'autre côté, ces liens économiques. Donc ça, c'est là où ils perdent de la crédibilité envers les acteurs de la société civile palestinienne et puis surtout ceux qui sont solidaires avec la cause palestinienne. Et c'est là où...
Et du soutien, surtout. Hein.
Ah, et du soutien.
Bien sûr, parce que...
Parce que je pense qu'aujourd'hui, les Palestiniens attendent plus, et on l'a dit dans cette émission, plus d'un soutien politique qu'économique. Économique, il est bienvenu, il sera toujours le bienvenu. Mais politique, je pense qu'aujourd'hui, avec la configuration régionale et puis toutes les mutations politiques ou géopolitiques, je pense qu'aujourd'hui, le soutien à la Palestine reste inconditionnel et le restera jusqu'à la libération de celle-ci.
On va finir avec, peut-être, puisque c'est la première émission du mois de l'année 2019, avec un poème de Mahmoud Darwish, quelques lignes que j'ai retrouvées. Mahmoud Darwish écrivait donc « Nous souffrons d'un mal incurable qui s'appelle l'espoir. Espoir de libération et d'indépendance. Espoir d'une vie normale où nous ne serons jamais ni héros ni victimes. Espoir de voir nos enfants aller sans danger à l'école. Espoir pour une femme enceinte de donner naissance à un bébé vivant dans un hôpital et pas un enfant mort devant un poste de contrôle militaire. Espoir que nos poètes verront la beauté de la couleur rouge dans les roses plutôt que dans le sang. Espoir que cette terre retrouvera son nom original, terre d'amour et de paix. Merci de porter avec nous le fardeau de cet espoir. » Merci.
Merci bien.
Mahmoud Darwish. C'est terminé pour ce soir Palestine ici, Palestine là-bas. Merci Radio Calade.
Merci Radio Calade. Et puis on continuera à vous informer sur la situation en Palestine. Et puis en 2019, pour la prochaine émission qui aura lieu en février. Voilà, merci.
Merci.
Au revoir à tout le monde.